RMC Intégral Euro.
Flora Moussi.
Il est 16h, merci à tous d'être avec nous sur AMC dans l'intégrale Euro. On est avec Coach Courbis, avec Steve Savidan et on est à la pause de ce Géorgie-République tchèque 1-0 pour les Géorgiens grâce à un but de Mikotadze, évidemment. Et tout de suite, on va parier sur cette seconde période.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Johan Guillet. Salut Johan.
Salut Flora, salut coach, salut à tous.
Quels sont les codes du coup pour cette seconde période ? Est-ce qu'elles ont évolué ?
Elles ont évolué, mais alors elles sont extrêmement belles. Hein. La Géorgie est à 2-10 alors qu'elle mène 1-0. C'est magnifique, le nul est à 3. La République tchèque est à 3,55. Je partais sur la Géorgie en avant-match. Je t'avoue qu'une cote à 2-10 des Géorgiens qui mènent 1-0, je fonce dessus.
Coach, t'es toujours sur ton 1 partout ?
Ouais, mais je peux le comprendre, mais bon, je vais... aspirer l'égalisation, dont le 1 partout ou le 2-1 pour les Tchèques, même si je suis pour la Géorgie par rapport à Sagnol, mais je trouve quand même les Tchèques légèrement supérieurs à la Géorgie.
C'est une belle cote, hein, 2,40, 1 partout ou 2-1 pour les Tchèques, c'est pas mal du tout. Et si jamais vous avez des petits doutes, le 1 partout ou 2-1 pour l'une des deux équipes, c'est coté à 1,90. On double quasiment la mise.
Ouais, c'est pas si mal.
Ça me plaît bien, ça.
Steve te suit, hein, sur le pari de la Géorgie.
Ah bah moi, j'avais dit ouais. Dès le début, la Géorgie. Et puis, bah,
c'est pour ça.
Je le conserve. Je pense qu'ils vont pouvoir tenir.
On verra.
Même
il reste
si
encore.
Je suis d'accord avec coach, les Tchèques, quand même, ils sont costauds quand même.
Ouais, c'est pour ça que les 45 prochaines minutes vont être intéressantes. Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13.
Il est où, le grand surtaxé.
Il est en Espagne, le Grand Prix, coach, puisque tu me demandes. On va le suivre, évidemment, dans quelques instants avec Jean-Luc Roy, qui est avec nous pour les qualifs aujourd'hui. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Flora, salut coach, salut Steve, et bonjour à tous.
Coach, il s'intéresse à tous les sports. Là,
écoute, j'essaie de voir si en Formule 1, les Espagnols sont aussi bons qu'en football.
c'est une belle question. Hein. C'est vrai, c'est la 10e manche du championnat du monde, Jean-Luc, et mine de rien, ça fait quand même 2 Grands Prix de suite que Max Verstappen ne part pas en pole position. Alors, est-ce qu'on va avoir encore droit à une surprise aujourd'hui sur ces qualifs de Barcelone ?
Ah bah c'est tout à fait possible, Flora. Effectivement, comme tu le rappelais, il avait démarré par une série formidable de 7 pôles consécutives, 8 si on y rajoute celle du dernier Grand Prix de la saison précédente. Ensuite, Charles Leclerc s'était emparé de la pôle, évidemment, à Monaco, avec sa victoire qui a suivi. Et puis, George Russell l'avait décroché au Canada. Bah écoute, là, c'est très possible, effectivement. Alors, du côté de Fernando Alonso, ça va être plus compliqué, hein, coach, là, je préfère te prévenir, parce qu'il a signé que le 9e temps de la 3e séance d'essai libre tout à l'heure.
Ah, il ne sera pas titulaire au prochain match.
C'est pas sûr. Il avait signé le 14e de la 2e séance d'essai libre, c'est te dire, et le 9e temps, bon, là, il ne faut pas rêver, il le dit lui-même, avec son Aston Martin, il n'aura pas les moyens. En revanche, du côté de Carlos Sainz, et ça, c'est la bonne nouvelle, puisque tu me parlais des locaux, et ben Carlos, qui est soutenu évidemment par une large partie du public, il a une tribune spéciale qui porte son numéro 55, donc au bord de ce tracé, qui est déjà comble, hein, depuis hier. Ben, c'est lui qui a été le plus rapide dans la 3e séance d'essais libres, Carlos Sainz. Alors, il faut savoir que dans sa carrière, il n'a pas signé beaucoup de pole position. Il n'en a que 5 au compteur, par opposition évidemment à son équipier Charles Leclerc qui en compte 24. Mais c'est très possible. Hein. Là, les Ferrari sont performantes. D'ailleurs, impossible de faire un pronostic si tu me demandes qui va être devant. Tellement les écarts sont resserrés. On a, écoute, là, on avait la bagatelle de 13 pilotes en moins d'une seconde dans la 3e séance d'essai libre. Donc vraiment, ça tient un peu de chaud. Il y a du vent. Hein. Il fait beau en Espagne. Un petit peu moins chaud que prévu, mais parce que le Grand Prix se déroule un peu plus tard que d'habitude ici à Montmeló. C'est sur les collines de Montmeló, à une trentaine de kilomètres au nord de Barcelone. Mais l'ambiance est chaude dans les tribunes, ça je vous garantis. Surtout quand on a deux représentants de ce calibre, eh ben, on est emballé du côté des Espagnols.
Et un mot quand même sur nos Alpines, hein, l'écurie française. Est-ce qu'on va être sur la lancée du Canada ? Ocon n'avait pas l'air très optimiste, hein, concernant le week-end. Il a dit « Je pressens un week-end difficile pour nous ». Il faut s'attendre à quoi pour nos deux pilotes français ?
Écoute, ce qui est rigolo en Formule 1 aujourd'hui, c'est que les pilotes eux-mêmes ne savent pas. Quand je te dirai que Pierre Gasly a signé le quatrième temps, je dis bien le quatrième, de la deuxième séance d'essais libres. Ocon était un peu plus loin, il était neuvième pour répondre à ta question. Dans la troisième séance d'essais libres, là, bah, ils sont tous les deux 11e et 12e, ce qui n'est pas trop mal hein, par rapport à ce qu'on a connu. Et je le disais, dans la même seconde, ils sont à 9 dixièmes des hommes les plus rapides. Donc eux-mêmes sont incapables de savoir si ça va bien fonctionner, moyennement fonctionner. Bon, écoute, on va dire que atteindre effectivement la Q2, c'est déjà le premier objectif tout à fait envisageable. Atteindre la Q3, c'est-à-dire se retrouver dans les 10 premiers sur la grille, pourquoi pas, oui.
Ouais, et on va voir évidemment ça avec toi. Là, il y a des pilotes, les pilotes sont en course, mais il y a encore des premiers temps qui tombent quand même. Tout le monde n'est pas parti encore. Hein.
Non, oui, à peine. Là, c'est Ricciardo le plus rapide en 1.13.771. Il faut savoir qu'on est tombé aux alentours des 1.13. Et à mon avis, pour signer la pole, il faudrait être dans les 1.12 et quelques. Hein. L'an dernier, Verstappen était l'homme le plus rapide en 1 minute 12 secondes et 272 millièmes devant Carlos Sainz, précisément.
Oui, donc ça promet évidemment pour cette séance de qualification. La Q1 qui vient de partir et qu'on va suivre évidemment avec toi, Jean-Luc. Je vous rappelle qu'on est à la pause de ce Géorgie-République tchèque 1-0 pour les Géorgiens. Ça va reprendre dans quelques instants. On va suivre ça avec coach, avec Steve. On va vous parler aussi de l'équipe de France, évidemment, dans quelques instants. On a tapé sur l'attaque des Bleus tout à l'heure après ce 0-0 hier soir. On va parler de la défense aussi parce que les clean sheets s'enchaînent pour les Bleus. Mais ça va reprendre tout de suite entre la Géorgie et la République tchèque. On a les paris, je vous rappelle les paris de coach, un partout, le pari de Steve qui a mis la victoire de la Géorgie, donc là il est au taquet Steve, en espérant que les Tchèques ne trouvent pas la faille dans la seconde période. Il va y avoir une opposition entre vous deux messieurs, et c'est Arnaud qui va arbitrer tout ça aux commentaires. T'es de retour, ouais,
Steve, je vais le tacler.
Je suis de retour, attention, je suis l'arbitre coach, si on se prend à l'arbitre c'est carton.
Ah merde, c'est vrai.
Ça va repartir à Hambourg dans quelques instants, les joueurs sont de retour sur la pelouse avec les presque deux héros géorgiens de ce début de partie, le buteur Miko Tetze mais aussi Mamad Arjvili, le gardien, puisqu'il a été l'auteur de plusieurs parades décisives dont juste celle après l'ouverture du score de Miko Tetze. C'est reparti dans cette rencontre, la deuxième mi-temps, 1-0 pour la Géorgie. Mamad Arjvili décisive sur Patrick Schick juste avant la pause et juste après l'ouverture du score de Georges Miko Tetze. Il fait vraiment une très belle partie, le gardien géorgien. Comment vont-ils gérer cet avantage au score? Ils avaient égalisé contre la Turquie, les joueurs de Willy Sagnol, le sélectionneur de la Géorgie. On est sur le côté droit avec les Tchèques et ils vont essayer de mettre la pression sur Tsitashvili. Ils vont récupérer une touche tout près du poteau de corner. Ils vont vouloir mettre énormément de rythme. Attention aussi à Koufal et Provo côté tchèque puisqu'ils sont déjà avertis. Koufal qui va aller faire cette longue touche qui avait amené la situation du but refusé en première mi-temps. Cette fois-ci, tous les joueurs vont passer au travers et peut-être les Géorgiens en contre. C'est aussi un style qui leur convient mieux avec la vitesse. Et là, Georges Miko Tetze qui a provoqué un nombre incalculable de fautes. Il va permettre à la Géorgie de récupérer. Il provoque des fautes mais il prend aussi énormément de coups. Et là, attention parce qu'il reste vraiment au sol. Il y a un tchèque qui va être averti. Miko Tetze toujours au sol. 46 minutes de jouer. 1-0 pour la Géorgie.
On va avoir un œil attentif évidemment à ça parce que la Géorgie sans Miko Tetze, c'est plus vraiment la même chose. Hein.
Ah ben non, mais bon, même pour les matchs à venir.
Bah oui.
Mais pourtant, je ne vois pas qu'il puisse...
L'obstruction et le coup dans le visage. Hein.
Ouais.
C'est la complète.
Ouais, là, il peut avoir très mal, effectivement. On va suivre ça, tu nous diras comment il va et s'il se relève, surtout Arnaud. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer de revenir sur le match nul de l'équipe de France hier soir face aux Pays-Bas, 1-0 qui laisse les Bleus dans l'incertitude hein, quant à leur qualification pour les huitièmes de finale, même si, a priori, les Bleus seront au rendez-vous. Et encore plus concernant la première place du groupe, surtout, il faudra s'imposer face à la Pologne mardi soir pour continuer de rêver dans 7 euros.
On a fait les calculs jusqu'au dernier petit millimètre. Avec 4 points, on n'est pas qualifié.
Si, avec 4 points, a priori, on est qualifié normalement. Si,
on est qualifié.
Coach.
Oui. Et puis en sachant que la Pologne, ils sont quand même éliminés là.
C'est pas officiel, voilà. C'est juste pas officiel techniquement, voilà. Bah, je pense que c'est aussi pour ça que Didier Deschamps est satisfait du match nul hier soir.
Évidemment, il y a la traditionnelle réflexion de se dire, en terminant premier, on a exactement quand même plus de chances de rencontrer
le
en huitième de finale.
Plus ouvert derrière.
Voilà. Mais bon. C'est pas évident du tout, on ne sait pas.
On ne sait pas, effectivement. Et on va parler un petit peu de cette performance des Bleus hier soir avec Valentin Jamin qui est auprès des Bleus. Salut Valentin.
Salut les amis, salut à toutes et à tous.
On a tapé sur l'attaque des Bleus tout à l'heure, Valentin. On peut quand même aussi se rassurer en se disant que la défense, elle, est performante. C'est d'ailleurs globalement ce qui est ressorti dans le discours des Bleus hier soir après la rencontre.
Oui, oui, exactement. C'est vraiment le point positif à ressortir de cette rencontre et surtout de ces deux premiers matchs. Deux matchs, deux clean sheets, sept tirs cadrés subis en deux rencontres seulement. Et donc la sensation vraiment que le bloc français, il est dur à bouger. Et ça, évidemment, ça plaît à écouter à Didier Deschamps.
Il y a beaucoup de points positifs. C'est dur pour tout le monde, mais on y est. Que ce soit sur le plan mental, l'état d'esprit, la solidité, oui, c'est évidemment important.
Alors Antoine Griezmann et N'Golo Kanté, ils avaient à peu près les mêmes propos hein, quand on parlait de l'attaque. Ils disaient oui, mais on est quand même une équipe qui pour le moment est solide. Il nous manque juste la finition. C'est aussi en ce sens qu'on était repassé hier en 4-4-2 ouais. avec Rabiot à gauche. Et puis il y a aussi, messieurs et dames, cette défense centrale, Saliba ou Upamecano qui s'est installée, qui rassure. Et puis un homme, Mike Maignan, derrière notre gardien qui est vraiment aérien. Rappelez-vous, hier, première minute, il a sauvé les Bleus d'entrée. Et ça, le Didier Deschamps, le sélectionneur, l'a également bien remarqué et souligné après le match.
Des débats comme ça,
les amis. Très bien, il est rayonnant. On a fait tout ce qu'il fallait pour l'amener à être dans les meilleures conditions. Mike est fort. Et il se sent fort et c'est un leader pour la défense aussi, donc on aura besoin de Mike à ce niveau-là aussi. Quoi.
Coach. Voilà, c'est la première fois en tout cas depuis 1998 que la France ne prend pas le but sur ses deux premiers matchs d'une grande compète comme ça, donc c'est aussi à souligner effectivement.
Donc je dis que des débats comme ça, les amis, si je peux me permettre, on peut en faire pendant des heures et surtout, si je peux continuer à toujours me permettre, ne mélangeons pas la solidité défensive de l'organisation de l'équipe de France avec pratiquement 9 joueurs défensifs sur 11 ou même 9 joueurs et demi par moment, évidemment que j'exagère un peu. Et en ce qui concerne après, essayons de voir l'équilibre de notre équipe de France entre ce que l'on peut faire offensivement et ce que l'on peut faire défensivement. Mais si en plus que il y a une organisation défensive redoutable. Le meilleur joueur de cette organisation défensive va être le gardien. Là vous arriveriez à m'inquiéter pour de bon. Ah,
et puis, rajoute quelque chose, coach. N'Golo Kanté.
Eh ouais, mais si parce qu'il est comme je peux rien ajouter.
Pardon, excuse-moi.
Non, allez, je plaisante. Vas-y.
Ben non, mais je continue à ce que tu dis. T'as Maignan, très bon. Et puis N'Golo Kanté, très bon. Deux fois élu meilleur joueur du match.
Et ensuite, on se demande la préoccupation, après chacun ses goûts, de Didier pour Tchouaméni. Je vais remettre en route Tchouaméni. Ben ça va, calmons-nous. Tchouaméni, son absence n'a pas empêché le Real de gagner la Champions League. Il y a des garçons comme Fofana qui sont bons. Et comme tu viens de le dire, le meilleur joueur sur les deux matchs, c'est Kanté. Derrière, notre charnière centrale, elle a l'air de tenir la route. Ouais. Après, notre défense, c'est une défense présentée à 4, mais en vérité, sur les 4, il y a trois arrières centraux. Donc, il y a un côté droit qui est le côté défensif, un côté gauche qui est le côté offensif.
Même si on a plus vu l'inverse face aux Pays-Bas. On a plus vu l'inverse face aux Pays-Bas. Koundé est plus monté que Hernandez.
Oui, d'accord. Mais bon, dans le potentiel et dans les qualités de ces joueurs-là, il y a plutôt un Koundé plus défensif que Hernandez. Derrière, deux milieux défensifs de numéro 6. Si on fait les comparaisons avec Rabiot et Matuidi, on peut faire les comparaisons en 2018 avec les deux milieux qui étaient devant la défense, c'était Kanté et un dénommé Pogba. C'est pas Tchouaméni et Kanté. Devant ça, Griezmann, qui est un deuxième attaquant axial, et Dembélé, avec ses qualités et ses défauts, son adresse et souvent sa maladresse. Mais sincèrement, je suis toujours inquiet de l'absence d'Mbappé, donc je dois être un pro-Mbappé.
Non, là on parlait surtout de la défense avec tout le monde, et c'est vrai qu'on essayait malgré tout de voir des points positifs dans ces contre-performances.
Ouais, tu es solide avec en plus Maignan qui fait la différence, même quand il y a quelques occasions, mais il les arrête.
Oui, et c'est vrai que Steve, on est forcé aussi de rejoindre le coach dans le côté un petit peu inquiet quand tes meilleurs joueurs sont des joueurs défensif dans ces matchs-là.
Oui, parce que nos offensifs ne sont pas à la hauteur de ces deux premiers matchs en termes de production, en termes d'efficacité. Et comme tout à l'heure, je crois que c'est Garel qui le disait. Ouais, qui disait bon ça, bah voilà, on a quand même un sélectionneur qui est pas surprenant dans son pragmatisme. J'allais dire global, collectif, habituel, c'est-à-dire qu'il repose beaucoup son jeu sur d'abord une efficacité défensive avec une petite liberté quand même pour Mbappé, ce qui induit le rôle de certains attaquants à plus défendre pour lui ou alors à sa place. Donc en fait, notre système global repose quand même sur une activité défensive, à rester en bloc et après de se projeter éventuellement vers l'avant. Donc ce n'est pas surprenant pendant cet Euro, c'est simplement encore une confirmation que notre jeu, si on pouvait dire qu'il ne serait pas beau, mais l'acte défensif peut être beau. Hein. Et c'est vrai que par contre, si tu es un petit peu dans la passion, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyant. Mmh. Maintenant que nos joueurs les plus en vue soient N'Golo Kanté et Mike Maignan, je dirais aussi quand même Saliba, quand même qui est intéressant quand même défensivement.
Ou pas Mécano aussi.
C'est ce que j'allais dire, ou pas Mécano. Donc nos deux centraux sont quand même assez intéressants. Nos deux côtés, Hernandez et puis et Koundé, le sont quand même aussi un petit peu, même si j'ai un peu plus de fibres, moins de fibres sur Koundé, que je trouve des fois un petit peu fébrile. Mais bon, voilà, on est une équipe défensive qui sait très bien attaquer, sauf que là, on défend très bien depuis deux matchs et on ne sait pas du tout attaquer.
Ouais, c'est un peu le problème, mais c'est vrai, on
parle. On sait attaquer par moment, mais on ne sait pas conclure.
C'est ce que je voulais dire, quand tu as raison.
N'est pas là, mais Valentin, c'est vrai que cette charnière, en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle s'est beaucoup cherchée, hein, cette charnière centrale. Didier Deschamps a beaucoup hésité ces dernières semaines, ces derniers mois. Upamecano, Saliba, ça a l'air de fonctionner, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau des automatismes des deux.
Oui, ils prennent leur repère. Ils avaient très très peu de matchs ensemble avant le début de la compétition. On les a testés face au Canada en préparation sur le dernier match. Ça s'était plutôt bien passé. Même chose face à l'Autriche. Et puis hier, j'ai vraiment trouvé en tout cas du bord du terrain Upamecano qui a vraiment dégagé une puissance, une sûreté qui était assez impressionnante, je trouve, notamment dans les jaillissements dans les pieds. Saliba à la relance, alors on le sent parfois encore un peu hésitant parce qu'il est à gauche dans la charnière centrale alors qu'il est droitier, mais à la relance il y a quand même une vraie qualité de passe, donc il y a peut-être des automatismes à peaufiner, mais c'est vrai que si ces deux-là qui sont quand même des défenseurs de très haut niveau continuent un petit peu d'entretenir leur relation, ça peut être effectivement très intéressant parce que alors on a vu du Konaté ou pas Mécano, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore deux ans, c'était Varane, le taulier de cette charnière. Il faut quand même reconstruire quand on perd quelqu'un comme Varane qui part à la retraite. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est une vraie satisfaction. Et c'est aussi grâce aux couvertures de Saliba ou pas Mécano, à leur communication, à leur entente, qu'on n'est pas tant mis en danger que ça côté bleu. Et c'est une vraie satisfaction. Et Didier Deschamps, en tout cas, n'a pas l'air de vouloir en changer. C'est un des points où on est sûr de ça.
Oui, coach Steve, vous êtes rassuré par cette charnière centrale?
Non, moi je ne suis pas rassuré quand même parce que honnêtement, non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas que par rapport à la charnière. C'est quand même, il faut se rappeler quand même, il y a un fait de jeu hier avec Xavi Simons, ce but refusé. Mmh. Honnêtement.
Il aurait pu être accordé.
Mmh. Il aurait pu. Dû. Parce que je trouve qu'il ne gêne pas Maignan. Je trouve qu'il ne gêne pas du tout Maignan. Il est vraiment hors cadre.
On peut penser qu'il empêche de plonger.
De plonger, ouais.
Bah non, parce que Maignan anticipe sur le côté droit.
Ouais.
Mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Donc en fait, tu te dis, tu marques un premier but quand même sur CSC lors de ces deux matchs. Tu as quand même la faveur de l'arbitrage qui penche vers toi quand même, parce que ça aurait pu aller dans l'autre sens.
Ouais,
et là, si tu es mené 1-0 contre les Pays-Bas, je ne suis pas sûr avec nos forces offensive qu'on revienne malgré qu'on ait une super solidité défensive.
C'était combien à quelle minute c'était, je me rappelle plus.
C'était un petit peu après l'heure de jeu si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Eh ben tu aurais eu la rentrée d'Mbappé.
peut-être mais est-ce que ça aurait été positif?
Didier Deschamps
coach, ce qui nous intéresse c'est quand même qu'il marque un triplé contre les U23 aujourd'hui. ça nous intéresse. C'est génial.
Je chambre pas, je plaisante pas quand je pense qu'il serait rentré.
Oui, après, la question est de savoir est-ce qu'il aurait été performant et son niveau à ce moment-là. Mais là, on ne fait que des signes, effectivement. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec
nous.
Avec grand
plaisir.
On tourne auprès des Bleus, prendre quelques infos pour nous donner tout
ça. On va aller voir l'entraînement, même si c'est à huis clos, on va essayer de se renseigner. Voilà, on va vous dire s'il met un triplé, justement.
Va jeter un œil, si Kylian Mbappé va être performant à l'échauffement. Merci beaucoup, Valentin. La fin de la première séance de qualification. Je regarde en même temps avec la Géorgie, Arnaud, qui était tout proche là, de doubler la mise.
Oh là là.
Avec l'occasion pour Mekva Bijvili. Ils évoluent en contre, les Géorgiens, parce que les Tchèques poussent énormément. Kvaratskhelia, tout à fait juste sur ce contre, qui a emmené cette balle, qui a attendu de fixer. Il a résisté au duel, il a attendu de fixer tout le monde. Pourtant, il y a trois Géorgiens pour deux Tchèques. Et finalement, Mekva Bijvili qui rate sa frappe croisée du pied droit. 1-0 pour la Géorgie. Et on joue depuis 57 minutes.
Avant la contre-attaque, il y a eu quand même un tchèque qui doit pas être au courant qu'il y a des gens qui jouent.
J'allais voir Jean-Luc Roy pour la première séance de qualification qui vient de se terminer, la Q1 sur le circuit de Barcelone, Grand Prix d'Espagne ce week-end en Formule 1, avec Lewis Hamilton pour le moment qui a signé le meilleur temps.
Aha. Et oui, bon, c'est anecdotique.
Oui,
pour le moment,
c'est
nous
pour ça que j'ai eu un petit tien, voilà. Mais j'ai souri en le voyant quand même avec cette place de numéro 1 pour le moment.
Mais tu as raison, Flora. De toute manière, c'est une très belle indication. Et tu vois, on parlait des chronos et des pronostics il y a un instant. Eh bien, le meilleur temps réalisé, dont je vous parlais tout à l'heure en Q3, 1:13.013, eh bien, il fallait faire beaucoup mieux pour rester dans la Q2 aujourd'hui, c'est vous dire. Puisque les 5 éliminés, eh bien, c'est Kevin Magnussen, donc avec la Haas, 16e temps, en 1:12.937. Donc, il était un dixième plus rapide que le meilleur temps de la troisième séance, et il est viré pour autant. Tsunoda reste sur le carreau également avec une DRB. C'est le cas aussi de son équipier Ricardo. C'est le cas de Alex Albon. Ça ne va pas du tout du côté des Williams, qu'on avait vu beaucoup plus à la fête il y a encore quelques Grands Prix. Et Logan Sargeant, son équipier américain, l'accompagne. Donc on va retrouver effectivement, comme tu le soulignais, Lewis Hamilton en bonne posture.
Et il faut dire que Russell n'est
pas trop mal non plus.
Oh. Allez Arnaud, l'égalisation.
Signé Patrick Schick sur ce corner. Et alors c'est une déviation d'un joueur géorgien sur le poteau et le rebond revient sur Patrick Schick au deuxième poteau qui marque de la poitrine. C'est le savoir-faire des attaquants de marquer
à l'action de tout à l'heure.
Ouais, sauf qu'il n'y a pas une main là, c'est directement la poitrine. Et il marque donc dans le but vide parce qu'il n'y avait pas de joueur au deuxième poteau. Ça ne t'aura pas échappé, coach. Et donc l'égalisation tchèque, c'est plutôt logique parce qu'ils étaient vraiment entreprenants, ils ont voulu égaliser, réagir. Donc un but partout, la 58e.
Eh ben écoute,
ça va, Steve.
C'est comme ça.
Bah ouais, parce que je trouve quand même, bah oui, ça va. Moi, je suis pour qu'il y ait des buts après, voilà. Mais je trouve que le gardien, il fait une grosse erreur sur le corner qui est sortant, ce qui est très rare de ce côté-là, qui est quand même sortant. En général, c'est plutôt des corners rentrants. Mm-hmm. Et en fait, il fait une tentative de vouloir y aller, il s'arrête et en fait, après, il est complètement décalé. Et je dirais que depuis le début de l'Euro, je sais pas ce qui se passe, hormis les nouveaux systèmes à 3 derrière que tout le monde utilise maintenant, plus un joueur au poteau.
Ouais.
Ah mais c'est sur pas les corners. C'est un peu plus. Enfin, il y a un peu plus longtemps.
Ouais.
C'est
pas ah bah, ça c'est pas vient pas. À l'Euro, tu veux dire
dernièrement là.
Ouais.
Ouais, mais là t'as vu tous les buts qui a sur corner.
Ah ben,
sur corner comme avant, ça au deuxième poteau.
Avant il y avait un gars à chaque poteau de mon époque. Ouais. Je suis pour ça moi. Là après ils en ont enlevé un au deuxième poteau en disant bon allez ça sera le gardien, ça nous fera un joueur de plus pour défendre. Et puis ils ont carrément enlevé l'autre. J'ai dit, enlevez le gardien aussi. Donc, qu'est-ce que ça s'emmerde là.
Et ça permet en tout cas aux Tchèques de revenir un partout, donc à l'heure de jeu entre la Géorgie et la République tchèque. On va laisser
coach,
Jean-Luc
Roy. Coach a déjà gagné son pari. Hein.
Ouais, bah, il est bien là.
Sur
coach.
Deux tickets, même, il y a eu le but de Mikotadze.
Il est passé.
On ne peut pas perdre tous les jours, comme mot.
C'est pas fini.
Ne parie pas sur la F1. Hein.
Ouais,
non, promis.
Jean-Luc,
oui, Flora.
On va te laisser terminer, nous dérouler cette première séance de Q1.
Bah écoute, j'allais vous vendre la Q2 évidemment en vous disant, comme tu l'as souligné, qu'Hamilton a été le plus rapide en réalisant le meilleur temps du week-end évidemment, mieux que la pole de Max Verstappen l'an dernier, je rappelais tout à l'heure, 1:12.272, donc il a réalisé là un chrono d'1:12.143. Et puis aux quatre premiers rangs, on a quatre pilotes de quatre écuries différentes, une Mercedes avec Hamilton, une Ferrari avec Leclerc, une Red Bull avec Verstappen et une McLaren avec Norris. Je te l'ai pas bien vendu là ?
Ah ouais, c'est parfait. Bah, tu sais quoi ? On sera au rendez-vous du coup pour la Q2 avec toi dans quelques instants. On va la suivre évidemment sur RMC. Un partout, donc toujours entre la Géorgie et la République tchèque. Les Tchèques qui étaient pas loin là de mettre un nouveau but, un nouveau sur corner. Non, c'est pas terminé dans ce match. N'en déplaise à coach, il peut se passer encore plein de choses.
Ah ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi.
16h23 sur RMC.
En plus, maintenant, on regarde le match tranquille.
Ah, c'est ça, t'es détendu. On revient tout de suite sur RMC pour la suite de l'Intégral Euro.
RMC, Intégral Euro.
Flora Moussi.
Coach Courbis avec Steve Savidan. On suit ce Géorgie-République tchèque. Un partout entre les deux équipes, on vous rappelle les rendez-vous à 18h. Ce sera le Portugal pour son deuxième match après sa victoire inaugurale. Les Portugais qui défient la Turquie aussi vainqueur lors de leur premier match. Il y aura à 21h la Belgique en quête de victoire après la défaite lors du match d'ouverture. Ce sera face à la Roumanie. Un petit mot avec toi Arnaud, de Géorgie-République tchèque, avec les Tchèques qui sont bien revenus dans ce match.
Un partout, la 63e et juste après l'égalisation. cette tête décroisée, ouais, un peu trop.
Qui ressemblait à l'égalisation.
De Krejci, effectivement, même si là, c'était pas un rebond, ouais, parce qu'il y avait un défenseur géorgien qui avait quand même dévié le ballon sur le poteau avant que Tchik reprenne ce deuxième ballon. Attention, les Tchèques sur le côté droit, ils sont totalement déchaînés. Un but partout, la 63e, le centre de Koufal, ça va arriver peut-être au troisième poteau. Il y a une poussette d'un géorgien, rien me dit Monsieur Siebert, l'arbitre allemand de cette partie. Le ballon toujours pour les Tchèques avec Koufal. Ah, c'est mal donné. Un but partout. Et là, les Géorgiens sont quand même en grande souffrance parce que les Tchèques mettent une grosse, grosse pression. Deux équipes en quête de leur première victoire dans cette phase de poule. Ce groupe F, un partout, la 64e.
C'est vrai que ça donne l'impression que les 30 dernières minutes, là, disons environ 30 dernières minutes, ça va être un petit peu compliqué pour la Géorgie.
Physiquement, hein.
Ça va être long.
Ouais, ça va être très, très long pour eux, effectivement.
Donc, attention, un petit contre. Hein.
Oui. Ils sont forts là-dessus.
Tout à l'heure, il a mal été joué ce contre, ouais, une minute avant l'égalisation.
Donc il peut se passer encore plein de choses. Et dans tout ce football, messieurs, on en oublierait presque que se joue dans ces jours à venir le dénouement de la folle saison de top 14. Hier, Toulouse s'est qualifié pour la finale en éliminant La Rochelle 39-23. Mais alors qui le Stade toulousain va-t-il retrouver vendredi prochain au Stade Vélodrome à Marseille? La réponse ce soir avec la deuxième demi-finale à 21h05 entre le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègle. Ce sera évidemment sur RMC avec notamment Winnie Claret. Salut Winnie.
Salut Flora, salut tout le monde.
On a vécu un grand match déjà hier soir et on enchaîne aujourd'hui avec cette affiche entre le deuxième et le troisième de la saison régulière, le tout en plus à Bordeaux et une vraie opposition de style. Est-ce que c'est trop schématisé que de dire qu'on va se retrouver avec la meilleure attaque face à la meilleure défense ?
Ah bah ça dépend à qui on pose la question, entre Laurent Labitte du côté Paris et Yannick Bru du côté de l'UBB. Ce qui est sûr, c'est que si on le fait très schématiquement, on a d'un côté le jeu offensif et flamboyant de Bordeaux contre le rouleau compresseur parisien. L'UBB, c'est la troisième meilleure attaque du championnat. Paris, c'est la pire attaque de top 14 sur la saison régulière, sur les 26 matchs de cette saison régulière. Le Stade français, à l'inverse, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Bordeaux, la cinquième. On voit déjà rien que par ces quelques statistiques, la physionomie des deux équipes. On a un Stade français qui joue beaucoup un jeu au pied d'occupation au-dessus de la défense des défenses adverses, qui va essayer de pousser dans leur retranchement les équipes, de ne pas les laisser avancer dans leur propre camp et d'aller jouer des attaques assez simples, assez fulgurantes pour aller marquer, ou alors évidemment en conquête sur des ballons portés avec un paquet d'avant hyper conquérant. Voilà, c'est ça, c'est la mêlée, c'est la touche parisienne qui a fait leur succès, qui leur a permis d'être leader pendant une grosse partie de cette seconde partie de saison à Paris, alors que Bordeaux, on a beaucoup parlé de leurs trois quarts flamboyants, les supersoniques. Alors il en manque un, on en parlera après, Flora, c'est Mathieu Jalibert, mais sinon c'est du Maxime Lucu, c'est du Louis Bielbiaré, du Damien Penaud, c'est aussi Romain Buros qui a explosé cette saison à l'arrière de l'UBB. Donc voilà, mais comme je te le disais, Laurent Labitte, lui, trouve que c'est un peu réducteur. Il aimerait bien que l'attaque parisienne soit un peu plus flamboyante, mais il reconnaît aussi que pour l'instant, c'est la conquête, c'est la défense qui fait le succès de Paris.
Ah bah oui. J'aimerais avoir ton avis. J'essaie, ouais, tu sais, de progresser, parce que je dis toujours qu'on progresse à tout âge, donc c'est valable pour moi.
T'as
aussi.
T'as bien raison, coach.
Alors, je questionne Moscato, je questionne Denis et Charvet, ouais, et j'ai pas la réponse. Non, mais j'ai pas la réponse entre l'avantage qu'on peut avoir de jouer à Bordeaux, parce que c'est une coïncidence, cette année c'est à Bordeaux, et l'avantage qu'on peut avoir d'avoir quand même depuis 15 jours, 3 semaines, regardé la télé, c'est le seul effort qu'on a pu faire du côté du Stade français. Donc c'est qui et quoi va faire la différence, le fait de jouer à domicile ou le fait d'être tranquille et de pas s'être fatigué sur les 15 jours, 3 dernières semaines?
J'ai envie de dire, coach, c'est encore une fois, ça dépend à qui tu demandes. Laurent Labitte, lui, il doit être bien content
d'avoir
pu préserver la fraîcheur des équipes et Paris a pu... dès que Paris s'est fait éliminer après les phases de poule de Coupe d'Europe, dès l'hiver, eh ben, ils ont eu déjà une manière de gérer leurs joueurs, le temps de jeu de leurs joueurs, pour avoir cette fraîcheur qui leur a permis d'être leader cet hiver et jusqu'à ce que Toulouse leur repasse devant vers le mois la fin du mois d'avril. Et donc effectivement que cette fraîcheur, elle a compté, et ça on l'a déjà vu pendant la saison régulière. Évidemment que le fait d'avoir évité un barrage la semaine dernière, c'est aussi quelque chose qui est un atout. Mais attention, effectivement, c'est la première fois que Bordeaux va jouer une demi-finale à domicile. Et d'ailleurs, Yannick Bru nous le disait hier, ça a été un pacte de confiance passé dès le début de saison quand on a su que ça se jouerait à Bordeaux avec nos supporters. On ne pouvait pas ne pas en être. Mamadou Diabil, troisième ligne bordelais, nous a aussi dit qu'ils avaient tous en tête cette demi-finale à la maison dès qu'ils ont vu que ça allait se jouer à Bordeaux. Et que, ben, voilà, il y en a énormément qui vont jouer avec les familles en tribune, que ça, ça compte énormément. Et donc, peut-être que ce petit supplément-là, mais aussi le fait d'être en rythme, d'être en canne, parce qu'il n'y a pas vraiment eu match face au Racing la semaine dernière. Donc, alors, ils ont perdu un joueur important, Bentami Ifuna, le pilier droit du côté de Bordeaux. Mais mis à part ça, ils n'ont pas forcément... voilà. Alors, Jalibert, c'était même encore avant. Ils l'ont perdu sur la dernière journée face à Oyonnax. Et ça, ça compte, évidemment. Mais mis à part ça, ils ne sont pas forcément sur les rotules. Donc, ils vont avoir du rythme. Ils vont être à la maison. Donc, je pense qu'il y a un petit supplément pour l'UBB.
Et bah oui, voilà. je profite que tu sois là sur le match d'hier.
L'arbitre, il n'a pas un grand-père ou une grand-mère toulousaine, un truc comme ça?
Bah écoute, je vais encore te dire, ça dépend de quel côté de la tribune tu es, du côté des rouges et noirs ou du côté des jaunes. Alors, bah,
et puis il faut dire aussi un truc quand même. Il y a les conditions climatiques.
Ce soir, il y a les conditions climatiques. Et hier, ça n'a pas vraiment joué.
En demi-finale de ce championnat, tu termines à 13. Je veux bien qu'il y ait des
erreurs. Il y avait une faute cynique. Non, le deuxième carton rouge, il n'est pas débattable. Parce qu'un coup de boule dans le visage de Julien Marchand, certes, il a certainement été un peu chambré, mais ça, c'est inexcusable. Le premier, d'où il y a Tonio.
Mais le deuxième, il y est peut-être parce que justement, tu joues à 14.
Non, mais le premier de Winnie Antonio, effectivement,
il y a un coup de tête.
Non, mais voilà, Winnie Antonio, effectivement, la question se pose de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des circonstances atténuantes, parce qu'on voit Thibaut Flamand se baisser dans son mouvement, ballon en main, et en plus, il vient plus s'encastrer dans le bras que dans l'épaule de Winnie Antonio. Toujours est-il qu'il y a contact avec le visage, que dans l'optique de protéger les joueurs, c'est totalement compréhensible d'avoir sorti le carton rouge. Maintenant, on peut aussi se dire qu'au-delà même des cartons rouges, tu as le Trainini, l'arbitre d'hier soir, c'est surtout qu'il a arbitré en faveur d'un jeu plutôt toulousain. On l'a vu très permissif dans les rucks. Il a permis justement alors ils ont été très pénalisés, hein, 15 pénalités quand même contre Toulouse, plus que contre La Rochelle, mais ça a peut-être permis justement de déployer que Toulouse puisse déployer son jeu. Donc, toujours très délicat, c'est toujours sujet à interprétation.
Que j'ai progressé de quelques millimètres.
T'es là, bravo, coach. T'intéresse. Steve, tu seras au stade en plus, tu vas te régaler toi ce soir.
Oui, puis tout à l'heure, j'ai eu certains joueurs de l'UBB, ils sont en pleine forme. Ils ont hâte, et comme le disait tout à l'heure Winnie, c'est que, en fait, ils avaient inscrit ça depuis le début de la saison. Dès que ça a été annoncé que les demi-finales du top 14 seraient à Bordeaux, ils l'avaient annoncé. Et en plus, ça joue, mais ils jouent le deuxième match. Et le deuxième match, tu vois, qui tombe un samedi. Bon, ils sont un peu dégoûtés là-dessus parce que
Un jour de moins de récupération.
Non,
pour
mais
la
c'est parce qu'avec les conditions climatiques, en fait, si tu veux, c'est que ça a l'avantage un peu du Stade Français qui sont assez compacts, qui jouent tous sur le roc, alors que les Bordelais sont plus sur la vivacité. Et le Matmut sur un deuxième match en 24 heures. Et franchement, il pleut quand même beaucoup sur Bordeaux en ce moment. Honnêtement, ça sera sans doute un jeu plus à l'avantage des packs.
Bon, si j'avais su, on aurait fait un débat.
Non, ça j'avais pas pensé. Par contre, je rajoute que le prochain match à Marseille, on peut me raconter ce qu'on veut. Il y a une équipe qui a un jour de plus de récupération.
C'est vrai, tu as raison. La finale, ce sera
vendredi. Et bizarrement, c'est Toulouse. Merde.
Merci beaucoup, Winnie. On te retrouvera évidemment ce soir avec Nico Paolorsi, avec Wilfried Templier pour le coup d'envoi de ce Stade Français Union Bordeaux-Bègles, 21h05. Ce sera évidemment sur RMC. Un point score pour ce Géorgie République Tchèque, Arnaud.
Il reste 19 minutes à jouer, un but partout. Les Tchèques toujours à l'attaque, ils viennent de perdre leur buteur Patrick Schick, touché au mollet droit, et un corner à suivre pour les Tchèques. Dans un instant, ils avaient marqué sur corner égalisé, c'est frappé, ça va partir au deuxième poteau, ça va être renvoyé dans un premier temps par les Géorgiens, ça va revenir, et la frappe qui va s'envoler de Jurasek. Un but partout, 18 minutes encore à jouer.
Allez, il reste encore du temps. On suit aussi la deuxième séance de qualification sur le Grand Prix d'Espagne en Formule 1. On va faire le point dans quelques instants avec Jean-Luc Roy, 16h33 sur RMC. Restez bien avec nous. L'Intégrale Euro revient tout de suite.
RMC, Intégrale Euro.
Flora Moussi.
16h35 sur RMC. On est de retour dans l'intégrale Euro avec Steve Savidan, avec coach Courbis. Dans quelques instants, on sera avec Jeannot Rességuier pour nous parler de la Belgique ce soir qui joue gros face à la Roumanie. On suit toujours la Géorgie face à la République tchèque, un partout entre les deux équipes. On va y retourner dans quelques instants. Mais d'abord, la deuxième séance de qualification sur le circuit de Barcelone en Espagne. C'est de la Formule 1, évidemment, Jean-Luc, avec les monoplaces qui sont en piste.
Et oui, c'est chaud bouillant là, effectivement. Flora, il reste un peu plus de 4 minutes et 30 secondes. Pour le moment, tout va bien pour Verstappen qui a signé le meilleur temps, un temps extraordinaire. D'ailleurs, 1:11.653, c'est-à-dire qu'il est en progression de près de 7 dixièmes par rapport au temps qu'il avait réalisé l'an dernier. Il précède avec sa Red Bull une McLaren, celle de Norris, une Ferrari, celle de Sainz, une autre McLaren, celle du Piastri, l'autre Ferrari de Leclerc. Alors tu vas me dire, du côté des Français, bah, pour le moment, c'est pas mauvais puisque Gasly est 7e. À 529 millièmes exactement de Verstappen. Et Esteban Ocon est sur la bulle, comme disait mon ami Patrick Tambay. Il est à 723 millièmes, donc il pourrait passer la barre de la Q2. Pour le moment, ne passerait pas Bottas, Alonso, Hamilton, Stroll et Zhou. Mais on va avoir maintenant la deuxième tentative. Et comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, tout va changer.
Ouais, et puis on croise les doigts pour le moment pour nos Français qui sont dans les clous. Géorgie, République tchèque, le deuxième match pour les deux équipes dans ce groupe F, Arnaud, pour le moment qui ne se départage pas. On rappelle que les deux équipes avaient été battues lors de la première journée. Ça relancerait complètement le suspense dans ce groupe avec, avant la dernière journée.
Et on rentre dans le dernier quart d'heure. Un but partout, sachant que les Tchèques joueront la Turquie mercredi prochain à 21h, tandis que la Géorgie jouera le Portugal également à 21h, puisque les matchs de cette troisième journée ont lieu tous en même temps. Mais...
ouais, donc on peut réfléchir du côté de la Géorgie, si on fait match nul dans ce match-là et que le Portugal gagne, ça sera un Portugal avec 6 points, tranquille. Et donc ce match ne sera pas mission impossible pour les Géorgiens.
Et les Portugais qui seraient assurés de la première place, quoi qu'il arrive, dans ce scénario-là. Hein, puisque les Turcs, à la différence de but particulière qui départagent les équipes, ne seraient derrière les Portugais. Mais on n'en est pas là. Et surtout, quand même, le gros coup pour les Tchèques de perdre Patrick Schick, qui a ressenti une pointe dans le mollet droit.
Ouais, c'est vraiment... en plus, il égalise. Il a eu... pas mal de pépins sur ces derniers mois et là il égalise, il revient en confiance et tout, paf.
Varadskaya qui va essayer de centrer directement en sortie de but. Schick qui était le co-meilleur buteur de l'Euro il y a 3 ans avec Cristiano Ronaldo. 5 réalisations au total, 14 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire et un but partout entre la Géorgie et la Tchéquie.
Ouais, ça promet pour cette fin de match, un match si important pour les deux équipes dans leur avenir, dans cet Euro. On a toujours un œil évidemment sur les qualifications dans le Grand Prix d'Espagne. On est dans la Q2 pour le moment, les monoplaces qui sont en piste pour essayer de réaliser le meilleur chrono. Il reste encore 2 minutes dans cette séance de qualification, mais on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, je regarde, on a un œil en même temps.
La tête de Chitil, tête plongeante au premier poteau, pas assez décroisée, magnifique centre de David Jurasek. Il avait pris l'avantage sur le capitaine géorgien Kachia, le défenseur central. Chitil qui a remplacé Chik, qui était pas loin de trouver le chemin des filets avec une nouvelle fois une tête. Un but partout et encore 13 minutes à jouer.
Allez, on va parler de la Belgique dans quelques instants avec Jeannot Rességuier, mais on va vivre la fin de la Q2, ces qualifications sur le Grand Prix d'Espagne en Formule 1, Jean-Luc, avec Hamilton qui est en piste là.
Oui, c'est chaud là, effectivement, c'est chaud également pour Esteban Ocon, parce que ça y est, il est passé du mauvais côté de la force, là il est 11e, pour le moment il ne participerait pas à la Q3, c'est pour quelques millièmes, 4 millièmes seulement, il a été devancé par Lance Stroll et son Aston Martin, Bottas également est 12e, donc il ne passerait pas, c'est le cas d'Alonso, le double champion du monde, et puis de Lewis Hamilton, tu le disais, alors Hamilton a priori, il a le potentiel évidemment pour améliorer considérablement, puisqu'il est loin derrière son équipier George Russell, qui a signé un chrono d'une minute 12 secondes et 114 millièmes, alors que pour le moment, et voilà, Hamilton se met à l'abri, 1:11.792, très beau chrono, il est deuxième temps, donc a priori, aucun problème pour Hamilton, pas de problème non plus pour Verstappen, qui n'est d'ailleurs pas ressorti en piste pour économiser un train de pneumatique, c'est le cas également de Lando Norris, troisième, de Carlos Sainz, quatrième, et de Charles Leclerc, sixième, mais alors je peux te dire que pour être dans le top 10, eh ben, il faudrait être à moins de 5 dixièmes du temps, voilà, c'est en train de tomber, Ocon, a priori, il se met à l'abri, c'est génial. Il est septième pour le moment, en 1:12.109. Ah, les Alpines ont retrouvé de la performance.
Et Pierre Gasly en piste aussi encore, là.
Ah oui, pour vous, qu'est-ce que ça dure
C'est Pierre le petit accent Flavio Briatore, ça
Oui, oh ben là, si tu me lances là-dessus,
mais on va l'avoir pour bien.
Deux heures. Je préfère m'abstenir pour le moment. En tout cas, bon, comme quoi, il ne faut jamais enterrer, effectivement.
Eh oui, parce qu'on le rappelle, il est de retour en Formule 1. Voilà pourquoi on parle de Flavio Briatore.
Oui. Et en tant que conseiller de l'équipe alpine, ouais. Avec ça, ils sont sauvés, là, c'est sûr.
Ouais.
Donc, Russell est dixième temps pour le moment, mais il a amélioré considérablement dans le premier secteur. C'est même lui le plus rapide, en 21.342. On attend le deuxième, voilà, 28.713. C'est pas mal non plus, il devrait s'en sortir, on l'espère en tout cas, pour la Mercedes de Russell. Troisième secteur, il va falloir attendre encore un tout petit peu, quelques secondes, le voilà. Russell se met à l'abri également, il se hisse au troisième rang. Je regarde, est-ce qu'il y a des pilotes en amélioration? Non. Ce n'est pas le cas de Tsu, le Chinois qui restera donc sur le côté avec sa Sauber. C'est le cas de Lance Stroll également avec l'Aston Martin, 14e temps. Hülkenberg, lui, non, il n'est pas en amélioration non plus dans le deuxième secteur. Donc c'est fini pour Hülkenberg et la Haas qui restera là. Bottas également avec l'autre Sauber. Et puis Fernando Alonso. Et ça, c'est quand même une énorme déception, non seulement pour Aston, qui laisse donc ses deux pilotes en Q2, mais aussi pour le public espagnol. Nous l'évoquions tout à l'heure, mais Cocorico pour nous. Les deux Français, Ocon 10e et Gasly 9e, passent le cut et donc vont se battre pour la pole. Bon, faut pas rêver, la pole, il faut pas y croire, mais tu vois,
oui.
Je te parlais d'écart réduit, 456 millièmes seulement d'écart entre Ocon 10e temps et Verstappen meilleur temps. C'est absolument incroyable. Je n'ai jamais vu des grilles de Formule 1 aussi serrées qu'actuellement.
Ça promet pour la Q3 dans quelques instants qu'on va suivre évidemment avec toi Jean-Luc. Toujours un partout entre la Géorgie et la République tchèque. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Mais on en a parlé tout à l'heure, hein. C'est la principale surprise depuis le début de cet Euro. La défaite de la Belgique en ouverture face à la Slovaquie. Les Diables Rouges sont déjà dos au mur ce soir pour leur deuxième match face à la Roumanie. Ce sera à 21h avec Jeannot Rességuier au commentaire. Salut Jeannot.
Salut Flora, bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot.
Bonjour, bonsoir.
Cette défaite...
Comme je suis déjà au stade, ça me fait un peu drôle.
Oui, cette défaite que personne n'avait vu venir finalement, et même pas les Belges eux-mêmes, à l'image d'Arthur Théâtre qu'on va écouter.
La défaite du premier match n'a pas été facile à accepter parce qu'on mérite pas de le perdre. Donc voilà, il y a des choses qui n'ont pas tourné en notre faveur pendant ce match-là. Parce qu'on doit le gagner. Bon, après il y a eu un peu cette phase, la main, etc. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent dans le football. Après, le groupe a très bien réagi mentalement, on s'est préparé au mieux. C'était le premier match de l'Euro, on sait que c'est pas le meilleur moment. Après voilà, peut-être qu'on a fait une défaite pour plus perdre par après, c'est l'objectif.
Il est optimiste, Arthur Théâtre. Effectivement, on souhaite pour nos amis belges, mais comment on s'est remis de cette défaite dans les rangs des Diables Rouges?
Alors écoute, personne ne veut s'inquiéter. En gros, joueurs et staff, toujours optimistes. Les journalistes, quand même, en avoir croisé tout à l'heure 2-3, sont quand même un petit peu inquiets. Alors les supporters, par contre, eux, ils disent, mais si ce soir, on ne bat pas la Roumanie, c'est fini, quoi. On va faire comme la Coupe du Monde au Qatar. On va sortir. Mais il ne faut pas non plus oublier que la Roumanie reste une équipe assez impressionnante, avec des éliminatoires solides face à la Suisse, sans défaite. Ils ont collé 3-0 à l'Ukraine. Enfin bref, c'est une équipe qui a, pas eu de chance, on l'a entendu, avec Arthur Théâtre et notamment Lukaku. Sauf qu'ils ont montré des faiblesses derrière. Il n'y a pas Witzel qui a été rappelé mais qui s'est blessé, il n'y a pas Meunier qui lui est toujours blessé, le retour de Vertonghen est annoncé pour aujourd'hui, lui qui était blessé à Lens. Théâtre lui devrait être titulaire sur le côté gauche. On sent que Domenico Tedesco est en train de remanier un petit peu son équipe et de voir de quelle manière il peut trouver un meilleur équilibre, parce que cette défaite-là contre la Slovaquie, elle fait tâche, parce qu'elle a mis fin à une série de 14 matchs sans défaite et qui coïncide avec l'arrivée de Domenico Tedesco, qui joue quand même un peu sa crédibilité, lui qui est passé par Schalke, par le Spartak, par le RB Leipzig, même s'il s'est fait remercier du club de Leipzig. Bon, après, ce n'est plus la génération dorée, qui était séduisante, mais qui n'a rien gagné, à part la demi-finale perdue contre la France en Coupe du Monde 2018. La génération des Courtois, Compagnie, Hazard, De Bruyne, Lukaku n'a rien gagné. De Bruyne, Lukaku, ils sont toujours là, mais bon, ils ont pris un petit coup de vieux. Et derrière, ça ne pousse pas vraiment. Quand on voit Trossard, ce qu'il réalise avec Arsenal, quand on voit Doku, le rôle qu'il peut avoir avec City, dans un rôle de joker, ils sont tous les deux passés au travers du match contre la Slovaquie. Donc oui, avant ce match contre la Roumanie, ici à Cologne ce soir, je vais la faire, je la referai peut-être plus. Les Diables voient rouge.
Effectivement.
Et qu'est-ce que ça sera le troisième match de la Belgique?
Alors, l'Ukraine. Ce sera l'Ukraine pour les Belges.
L'Ukraine, puisqu'ils ont perdu 3-0 contre la Roumanie. Et
l'Ukraine qui a gagné en plus hier.
Son match hier.
Si donc, par exemple, il y a un match nul ce soir, ce troisième match, ce sera magnifique.
Ça va valoir cher. Steve,
on risque dans cet Euro d'avoir de très, très bons matchs. Numéro 3.
C'est le dernier match, ouais. Parce que tout n'est pas joué, ouais. Steve, est-ce que tu es inquiet, toi, pour cette équipe belge après le premier match?
Ah oui, on peut que l'être, hein, parce qu'on les a vus un petit peu inexistants quand même lors de leur premier match. Et puis surtout, ce qui fait leur force, honnêtement, c'est quand même les aspects offensifs. Et là, on les a pas vus à la hauteur. Il y a trop de déchets dans cette équipe, trop d'incohérences, et puis ça passe pas à un moment donné, comme le disait tout à l'heure.
Ils n'ont pas été quand même vernis non plus.
Ils n'ont pas été vernis, c'est sûr.
Chance quand même, quoi.
Oui, mais bon, tu sais très bien que tu peux aussi la provoquer. Mais par contre, c'est comme tu disais tout à l'heure, exactement, c'est qu'on parle d'une génération dorée qui n'a jamais rien gagné. Voilà, c'est un petit peu ça le problème. Et en fait, je pense que ça sera toujours un éternel poulie d'or, en fait. C'est que en fait ça sera des très bons seconds, troisièmes, avec toujours des très bons joueurs, des très bonnes générations, mais on attend toujours qu'ils gagnent quelque chose et qu'ils marquent en tout cas une compétition de leur empreinte, parce qu'on les voit jamais dominer.
Là ils peuvent marquer en terminant quatrième.
Tu sais que comme tu disais tout à l'heure, coach, là tu sais quoi, ils sont en train de jouer leur troisième place presque, hein.
Bah oui.
Parce que la deuxième, bon, c'est un peu chaud, franchement ça va être très tendu, hein.
Ouais, ça va être tendu jusqu'au bout. Jeannot, il y a quand même des retours importants, notamment en défense, hein, pour les Belges, qui vont leur faire du bien.
Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai un grand point d'interrogation pour cette équipe Roumanie, qu'elle puisse gagner le premier match, d'accord, mais 3-0 en ayant pratiquement 4 ou 5 occasions, là, bim, bim, bim. Est-ce qu'ils vont renouveler ça? J'en doute, je vais regarder ce match avec beaucoup de curiosité pour la Belgique, mais pour la Roumanie, je ne sais vraiment pas ce que vont nous faire les Roumains.
Coach, je te le redis, une seule défaite sur les 16 derniers matchs. 26 mars dernier, un amical à Madrid contre la Colombie. C'est une équipe étonnante qui a terminé première de son groupe devant la Suisse. 22 points contre 17, avec aucune défaite. C'est une équipe qui est solide, entraînée par Edouard Iordanescu, qui est le fils de Iordanescu, qui avait été sélectionneur, qui a gagné la Ligue des Champions, ou plutôt la Coupe d'Europe des clubs champions en 86 avec le CEA. Le jeu est très léché. Stanciu mène bien cette équipe-là. Lui, au moins, il est épaulé, ce qui n'est pas le cas de De Bruyne, parce que c'est vrai que sur le match de la Slovaquie, De Bruyne a tout tenté, tout essayé, mais il ne peut pas faire tout seul ce que, par exemple, a réussi à faire Stanciu avec des joueurs comme Marine, comme Mann, comme Dragus ou encore Coman, des joueurs qu'on découvre, hein, des joueurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir jouer.
Et est-ce que Lukaku va tout rater aussi?
Non, mais je pense que ça ne durera pas. C'est quand même un joueur qui a claqué... Il sort d'une belle saison avec la Roma, hein. 13 buts en 32 matchs sur le championnat, 7 buts en Ligue Europa. À un moment donné, ça va finir par sourire. Mais Steve, quand tu as un attaquant qui n'y arrive pas, en plus il râle parce qu'il y a l'histoire de la main, comme le dit Théâtre sur le match contre la Slovaquie, est-ce qu'il peut douter, lui, ou est-ce qu'il a cette force de caractère qui peut l'amener à faire quelque chose de grand ce soir?
Il a la force de caractère parce qu'il nous l'a déjà prouvé, déjà d'une. Il a les joueurs qui aujourd'hui l'alimentent quand même. Il y a une petite note d'encouragement, c'est qu'il n'a pas eu de réussite, mais il a surtout manqué d'adresse, de justesse, de présence quand même dans la bonne zone d'action, parce qu'en fait il rate des occasions, mais des fois il est loin du ballon. Sur certains centres, je vois sur le premier match, il était loin par exemple des centres où il doit mettre la tête. Il est encore très loin, parce qu'on sait que c'est un joueur quand même assez athlétique et qui a besoin, quelque part, pour exister, un peu de ses duels. Mais honnêtement, c'est un très gros joueur. Maintenant, il faut qu'il mette, entre guillemets, sa volonté de vouloir marquer des buts et la réalisation.
Je vais lui dire que tu as dit que c'est un gros joueur.
Non, mais juste pour finir, tu as raison quand tu dis qu'il est alimenté. Mais il n'a peut-être pas été assez alimenté dans de bonnes conditions contre la Slovaquie. C'est peut-être pour ça l'ancien Monégasque va peut-être être titulaire, que Bakayoko, Doku et Trossard sont tous les trois en balance pour une place sur les côtés, et ça permettra d'avoir un meilleur équilibre offensif à cette équipe belge qui peut-être sera un peu plus en réussite ce soir face à la Roumanie.
Merci beaucoup Jeannot, on te retrouve avec à 21h pour le coup d'envoi de ce Belgique-Roumanie si important. La fin de match de ce Géorgie-République tchèque. Arnaud, ça va être chaud dans les dernières minutes. On sent d'ailleurs qu'aucune des deux équipes ne lâche cette fin de match.
La 89e, un but partout et on a sorti Mikotadze et Gvaratskhelia pour la Géorgie et Willy Sagnol parce que les joueurs sont tout simplement exténués. Les deux leaders de l'attaque géorgienne et le buteur Mikotadze, on a également fait tous les changements côté tchèque. On sent aussi deux équipes quand même physiquement plus que dans le rouge, elles ont tout donné et elles essayent d'aller arracher les 3 points de la victoire parce que forcément si la Géorgie ou la République tchèque prenaient 3 points, ça serait une excellente opération en vue de finir meilleur 3e, voire mieux, alors que le match nul obligerait les deux formations à réaliser pour les Géorgiens un exploit contre le Portugal et pour les Tchèques à réaliser une performance face aux Turcs mercredi prochain. On va rentrer dans une minute dans le temps additionnel de cette partie avec les Géorgiens à l'attaque avec Gvilitaïa qui vient de remplacer Mikotadze. Ballon rendu, là les équipes sont vraiment coupées en deux. Ouais. À voir dans ce temps additionnel si une des deux formations va réussir à forcer un petit peu le destin.
Je crois que le coach Courbis est le coach des deux équipes.
Ouais, il leur
parce
dit
que je crois
rien,
que ça l'arrange.
Laissez
tranquille, les gars. Laissez.
Là, chute, ne porte pas la scoumoune.
Attention, Parra qui est dans la surface de réparation. Soussac qui va centrer, c'est renvoyé par Gvelessiani qui a remplacé le défenseur central Vervekelia tout à l'heure. Attention, est-ce qu'on va pouvoir se dégager côté géorgien? On va obtenir la sortie de but. On ne va pas concéder le corner dans 30 secondes. Ce sera le temps additionnel de cette deuxième mi-temps.
À qui profite ce match nul?
Ben, je pense que ça profite aux deux, si on regarde les choses comme ça, parce que tout se jouera dans la dernière journée. Et là, au moment là où on se parle, je reste persuadé, allez, ticket de côté. Hein, donc, ils veulent surtout ne pas perdre. La Géorgie, qui se débrouille de faire un point dans ses deux premiers matchs, c'est déjà pas mal. D'autant plus que le match d'avant, bon, ils perdent 3-1 avec ce contre avec le gardien qui monte sur le corner. Et là, les Tchèques, par contre, ils perdent cet attaquant Chic qui est très, très important pour eux. Donc, si ça te termine un partout, tout va se jouer de façon extraordinaire dans la dernière journée.
Ouais, et puis, ça dépendra aussi du résultat de Portugal-Turquie tout à l'heure.
Mais quand on regarde bien, personne n'est sûr aujourd'hui d'être premier. On ne sait pas qui va être le premier de ce groupe. On ne sait vraiment pas qui sera le deuxième ni troisième.
Ouais. C'est pour ça que ça dépendra aussi du résultat tout à l'heure. Parce que si le Portugal gagne, ils seront assurés de cette première place.
Ah et même les Turcs, si les Turcs gagnent aussi.
Bien sûr.
Et s'il y a un match
coup,
nul.
Le dernier match, forcément, si le Portugal ou la Turquie sont déjà qualifiés, le dernier match sera moins important pour eux. Donc l'équipe qui va les affronter aura peut-être plus de chance.
Mais s'il y a un match nul ce soir là, entre Turquie et Portugal.
Oui. Suspense
après,
total pour le dernier match.
Il y a évidemment les différences de but qui peuvent compter. Ouais. Même si c'est la différence de but particulière qui va primer, il faudra sortir sûrement les calculettes.
Ce sera quand, mercredi ?
Ce sera mercredi 21h pour ces deux matchs et donc cette dernière journée de ce groupe F de l'Euro. Donc 5 minutes supplémentaires de temps additionnel et on a déjà écoulé 1 minute 20, un but partout. Là, je pense que les Géorgiens se contenteraient bien de ce point du match
nul. Ça commence à être difficile.
C'est ce que je pense.
Les Tchèques à l'attaque avec Holz, le défenseur central. Ils sont pratiquement tous montés avec Sefcik désormais sur le côté droit. Koufal qui va centrer. Attention, la tentative de retourner. C'est renvoyé par Lobjanidze. Et les Tchèques qui vont aller arroser de ballons cette surface de réparation géorgienne pendant encore au moins 3 minutes dans ce temps additionnel. Le ballon avec Koufal justement qui hésite un petit peu. On va essayer de passer par les côtés. Voilà sur le côté gauche avec Matej Jurasek qui est bien cadré là-dessus. Et on va devoir repasser derrière avec les défenseurs centraux. On va allonger avec Hanak sur le côté droit avec Koufal. Finalement c'est manqué, peut-être les Géorgiens en contre. On a sorti les deux attaquants Mikotadze et Gvaratskhelia pour peut-être avoir plus de rapidité devant. Attention, ballon perdu, ça va être récupéré avec Antonin Barak à l'angle de la surface de réparation sur le côté droit qui va s'appuyer sur Soussek sur le côté droit, le centre totalement mal ajusté qui va aller au-delà du deuxième poteau, mais le ballon sera toujours pour les Tchèques qui mettent une grosse pression. Krejci justement hauteur de la surface de réparation sur le côté gauche, Jurasek et la mauvaise passe, et les Géorgiens qui vont pouvoir se dégager. On a passé la première moitié de ce temps additionnel, 2 minutes 30 encore à jouer, un but partout.
Ouais, on a toujours un œil aussi hein, dans le même temps sur la séance de qualification du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. On est dans la Q3 maintenant. Pour le moment, avec Max Verstappen, après un premier tour qui a signé le meilleur temps. Il y a nos deux Français hein, qui sont là dans cette Q3. Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sont au rendez-vous. On vous donnera évidemment la grille de départ dans quelques instants. Mais on va suivre cette fin de match avec Luis Sagnol qui donne ses consignes hein, sur le bord du terrain, Arnaud, à ses joueurs. On sent que c'est difficile hein, pour les Géorgiens de repartir de l'avant.
Hein. Ils veulent tout donner. Ça se joue vraiment au cœur pour les Géorgiens. Un but partout, 2 minutes encore à jouer. Ça serait leur premier point de leur histoire hein, puisque c'est la première fois que la Géorgie participe à l'Euro. Les Tchèques sont sur 8 euros de suite hein, ils ont quand même un peu plus l'habitude, mais il y aurait aussi un petit caractère historique pour ces Géorgiens et surtout voilà, ne pas céder en fin de match contre les Turcs. Ils avaient cédé une première fois et concédé ce but du 3-1 dans le temps additionnel. Attention avec Barak qui va écarter pour les Tchèques qui font vraiment le siège de la cage géorgienne, mais ils sont plutôt à l'arrêt, ils ont du mal à trouver des situations. La frappe de Jurasek et ce sera capté sans grande difficulté par Mamar Dajvili, le gardien géorgien qui aura fait une bonne partie, voire peut-être même l'homme du match, hein,
oui, même très bon.
Décisif notamment sur Patrick Schick qui pouvait pas faire grand chose hein, sur l'égalisation tchèque, hein, le ballon qui rebondit sur le poteau et qui revient sur l'attaquant tchèque Patrick Schick, sorti sur blessure un petit quart d'heure plus tard. On est dans la dernière minute de ce temps additionnel. Un but partout entre la Géorgie et la République tchèque. Coupable d'avoir gagné un petit peu de temps, le milieu de terrain Kochorajvili prend un carton jaune, coup franc dans le rond central. Bon, c'est un peu de bonne guerre, hein, ouais. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, c'est peut-être pour ça que Steve, que tu râles un peu. C'était un peu en se replaçant, un peu de zèle peut-être de la part de monsieur Siebert, l'arbitre allemand. Les 30 dernières secondes, le nouveau centre à suivre. Ici à Hambourg, pour ce match entre la Géorgie et la République tchèque, ça va revenir sur le côté gauche une nouvelle fois. Jurasek qui va essayer de centrer avec son pied gauche. Attention, il est bon, ce centre, ça va être renvoyé par la défense géorgienne. Attention, deuxième ballon.
Ils sont sur tous les ballons, les tchèques. Hein.
Absolument, ils ne lâchent rien. Attention, la frappe lointaine, ça va pas passer le premier rideau et peut-être le contre.
Pour le contre.
Il y a un 3 contre 1 pour les Géorgiens.
Vas-y, va au bout, pousse.
Avec ce contre à venir, avec chaque Vetadze. Il y a pour l'objanité, peut-être la balle du 2-1. Oh, oh, c'est au-dessus.
Mais il a pas le droit.
Oh, l'objanité qui a remplacé Kvaratskhelia qui est tout seul à 15 mètres et qui aurait pu offrir la victoire à la Géorgie, et c'est passé au-dessus alors qu'il suffisait juste de cadrer.
C'était pratiquement le but de la qualification.
Oh là là.
Complètement raté au-dessus du cadre.
Mais bon, est-ce que c'est bien joué ce que fait l'autre avec le
ballon?
Non,
hein, ouais. il met du temps.
Soit il va jusqu'au bout, soit il va jusqu'au bout.
C'est fini.
Ouais, c'est terminé.
C'est fini sur cette action cruelle alors que la Géorgie pouvait réaliser le coup parfait. Finalement, un but partout.
Les dernières minutes de l'équipe de Géorgie, elles sont pas sympas. Ouais. Entre le premier match,
ça va être dur de rentrer au vestiaire après ça.
Et ils ont tenu, ils prennent leur premier point. Ouais, les premiers points à la fois pour la Géorgie ou la République tchèque.
Ah ben, ce que fait Sagnol est extraordinaire.
Entre Ivan Hasek, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, et Willy Sagnol, les deux sélectionneurs. Un but partout donc entre la Géorgie et la République tchèque. Miko Tadze en première mi-temps sur pénalty. L'égalisation de Patrick Schick sorti sur blessure ensuite à la 58e.
Merci beaucoup Arnaud pour ce 1 partout entre la Géorgie et la République tchèque. Dans quelques instants à 18h ce sera la Turquie face au Portugal. Merci beaucoup coach.
Salut à
merci,
tout à l'heure.
Merci Steve.
Merci à vous.
Demain.
Allez du bébé. Allez du bébé.
Ce sera sur AMC ce soir. Les résultats de la qualif du Grand Prix de Barcelone en Formule 1, c'est dans quelques instants avec Benoît Boutron pour la suite de l'Intégrale Euro. Restez bien sur RMC.
RMC Intégrale Euro.